Bonjour Daniel, c'est la Bretagne. C'est Madame Gourec, Alexandra. Bon, moi je voulais vous demander, Daniel, quelque chose. Si on peut venir au secours de Macha. Parce que Macha est à mon secours depuis 7 ans. Je suis paralysée dans mon lit. Elle a donné de secours à 200 000 personnes. Depuis 30 ans bientôt qu'elle fait cette émission, le Macha. S'il vous plaît, Daniel, vous êtes tellement fort. Fort, fort, fort. Plus ce directeur, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Qu'on met Macha dehors. On a besoin d'elle. Elle nous a sauvés. Moi, elle donnait ma survie. J'ai 80 ans. Elle donne ma survie. Daniel, je vous en supplie. Je vous en supplie. Madame Gourec, toute la Bretagne est en pleurs. Merci.
Bonjour, c'est Christophe du collectif pour la promotion des écoles publiques dans les Mauges. Donc on est en pleine manifestation à Beaupro. Il y a 1 millier de personnes. Pour nous c'est vraiment c'est un succès, 1 millier de personnes à Beaupro, c'est 1 million à Paris. Donc on est déterminés, on va aller au bout, on lâchera rien. On vous annonce une nouvelle manifestation à Jalais le 17 juin à 10h30 devant la mairie. Jalais, c'est la plus grande commune de France sans école publique. Le conseil municipal vient de refuser l'ouverture de l'école malgré les inscriptions d'élèves potentiels pour cette école. Donc on va aller à nouveau manifester. Donc rendez-vous 17 juin, 10h30 à la mairie de Jalais. Merci, au revoir, on vous rappelle pour vous donner des nouvelles.
Bonjour, c'est Kate. En Corrèze, mardi 13 juin, se réunira le repère modeste et jovial de Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Rendez-vous à 20h30, bar Le Crocodile Gourmand, rue de la Mairie. Apportez de préférence un message pour la boîte vocale virtuelle, mais surtout, n'oubliez pas de porter vous-même. Au revoir.
Oui, salut, là, bah, si j'y suis, dans ces babettes de fitou. Ah voilà, j'ai pas la télé, mais je sais qu'il va y avoir l'ouverture là des la cérémonie d'ouverture pour le foot. Et je serais bien curieuse de savoir si les 600 filles du Grand Bordel là, elles vont défiler aussi. Ça serait plutôt sympa tant qu'à faire. Alors moi, petit hommage, voilà. Alors si vous pouvez me tenir au courant, je vous embrasse. Ciao.
J'ai pris une mission en cours là, d'aujourd'hui là où Mermet nous faisait un topo, on va dire, de toute la putain de misère qu'il peut y avoir dans ce putain de monde. Moi, j'étais en train d'être dans les bouchons de Rouen, savoir qui allait passer le premier pour monter la rampe du pont Mathilde. J'ai trouvé le décalage. Je viens de me le prendre dans la gueule, mais j'ai 37 piges. Je pense être relativement ouvert d'esprit. Je viens de me prendre une sarte dans la gueule. Mais quelque chose d'assez impressionnant. Ça fait des années que j'écoute, j'ai jamais appelé avant parce que j'ai toujours pensé que mon avis importait peu, je le pense toujours d'ailleurs, mais là ça me libère. Il fallait que je le dise à quelqu'un.
Jean-Claude Delisle, salut Daniel, je voudrais savoir si tu peux nous accorder un petit moment de bonheur, enfin supplémentaire. Bah ouais, je peux pas, j'ai pas l'occasion de suivre ton émission forcément tous les jours à 17h, hein, à mon grand dame. Et ben j'ai beau aller sur le site de France Inter. Il y a bien 2 millions d'histoires qui est podcastable. Et ouais, podcastable, je sais bien, c'est un terme un peu barbare, un peu in, etc. Mais si on pouvait télécharger ton émission, quand on peut pas l'écouter. Parce que quelle grande âme d'entendre les messages de nous dire c'était une super émission et d'être complètement frustré de ne pas l'avoir écouté. Voilà.
Eh ben, ça y est, d'accord. Vous avez poussé à la roue. Vous avez gagné à partir d'aujourd'hui. Là-bas, si j'y suis, et comme vous dites, podcastable. Voilà, on avait un peu traîné les pieds, finalement, on a décidé de donner notre accord. Et vous pourrez désormais, donc, podcaster là-bas si j'y suis. Vous pouvez, je le rappelle, réécouter aussi cette émission pendant 24 heures sur franceinter.com. Mais ensuite, vous ne devez surtout pas aller écouter, réécouter l'émission sur là-bas.org, là-bas.org, parce que ça c'est un site pirate et c'est très très mal les sites pirates. Et là vous avez quelques centaines d'émissions que vous pouvez réécouter autant que vous voulez, là trait d'union bas.org. C'est un pirate, c'est un auditeur pirate qui tient ce site depuis déjà pas mal de temps, mais il faut surtout pas y aller parce que c'est interdit, puisque c'est un pirate. Voilà, je vous ai tout dit. Mais c'est podcastable maintenant. Alors, par exemple, l'émission d'aujourd'hui va pouvoir être podcastée. Et aujourd'hui, c'est l'émission mensuelle avec l'équipe du Monde Diplomatique. Donc, vous allez pouvoir la réécouter tant que vous voudrez. Voilà, je vous ai tout dit, hein. Mais le diplôme, c'est juste après les messages que voici, que vous avez laissés au cours de ces dernières heures dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Denis Mermet. Un petit rayon de soleil dans ce monde très dur. Venez tous écouter l'opéra de la flûte enchantée au Palais des Congrès de Pontivy le vendredi 16 juin. Cet opéra est joué par des jeunes de la classe de chant et la chorale Cantabile de l'école de musique de Pontivy. Merci.
Oui, bonjour Daniel. Je souhaitais intervenir en complément de la présentation diffusée vendredi du parrainage citoyen coordonné par le réseau RESF. Donc à Nantes, nous organisons en mairie de Jean-Marc Hérault le parrainage de nombreuses familles le 1er juillet au matin. Il en sera de même dans de nombreuses villes environnantes dont les municipalités sont sensibles au respect des droits des enfants. L'après-midi, un rassemblement interrégional avec des conférences et des concerts soutenu par la région Pays de Loire se tiendra à la pointe de Lille, pour ceux qui connaissent. Toute l'actualité est sur le blog Enfants étrangers, au pluriel sans accent, attaché, .haut-et-fort.com. Sylvain de Nantes.
Oui, bonjour, c'est Claire de Bretagne. Dans la série On vit dans un monde de fous, j'en ai une bien triste à vous communiquer. Il s'agit d'une pétition pour dire non au projet de reality show au cœur des tribus. Je vous lis l'intitulé. France Télévisions a commandé pour la chaîne France 2 à la maison de production Extra Box une série de 9 émissions mettant en scène un casting de 6 à 9 candidats lancés à l'aventure au cœur des tribus les plus isolées de la planète. Ces personnes seront amenées à imiter quotidiennement les autochtones dans leurs gestes de la vie courante et dans leurs rituels. On imagine déjà nos apprentis explorateurs s'essayer aux mets les plus surprenants, se vêtir de turban ou de cache-sexe, se faire tatouer ou singer les rites et les traditions les plus sacrées. Les candidats seraient ensuite jugés par un jury composé d'un ethnologue référent ou de chef coutumier. Alors quand on sait déjà l'impact néfaste que peut avoir un couple de camés du caméscope, comme dit Daniel, dans un village africain asiatique, on ose à peine imaginer ce que va faire comme dégâts toute une boîte de production en tournage. Alors quand ils vont se rouler dans la boue en Guyane pour faire les débiles, ça ne regarde que. Mais là, il y a danger et ça urge. Alors pour contacter l'ICRA International qui organise une pétition, vous pouvez aller sur www.icrainternational.org ou téléphoner au 01 48 77 86 02. Voilà, j'espère que monsieur de Carolis, qui s'éloigne un petit peu de l'esprit des racines et des ailes, nous entendra. Merci, à bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec l'équipe, comme chaque mois, du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, on est autour du numéro de ce mois de juin du Monde Diplomatique, et on va attaquer avec un sujet très très marginal, dont personne ne parle, et ça c'est le courage du Monde Diplomatique, on va parler de foot. Bien sûr, à Monet.
Le foot, c'est central. Hein. Le foot, c'est ce qu'il y a de plus important, enfin, comme beaucoup d'auditeurs et d'auditrices doivent le penser. Bon, c'est vrai que cette Coupe du Monde qui vient de commencer donne lieu à un déferlement médiatique, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on a voulu en parler. C'est pas seulement pour culpabiliser les personnes qui s'intéressent au football. C'est simplement pour rappeler aussi un certain nombre de données qui font que l'on peut sérieusement s'intéresser au football. D'abord, il est clair que, disons, lorsque on estime que 30 milliards de personnes vont suivre, en audience cumulée, bien entendu, hein, sur les 64 matchs, vont suivre cette Coupe du Monde, il est certain que un tel intérêt aussi massif, on ne peut pas s'en désintéresser totalement, disons. Deuxièmement, au moment de la finale, le 9 juillet prochain, il y aura, on estime en tout cas, 2 milliards de personnes qui, à cet instant-là, vont être devant leur téléviseur à travers le monde pour regarder le match final qui va décider du champion du monde. Là encore, disons qu'aucun autre événement, de quelque nature que ce soit, est en mesure de rassembler, disons, un tiers de l'humanité à cet instant précis. Qu'est-ce qu'on peut en dire globalement ? D'abord deux choses. Une considération, disons, marginale cette fois-ci, c'est que L'expérience montre que lorsqu'il y a un tel intérêt médiatique pour un événement, quel qu'il soit, des choses se passent sur la planète qu'on ne remarque pas. Et qu'un certain nombre de gouvernements peuvent cyniquement profiter d'un tel intérêt, parce que leurs opinions publiques suivent leur équipe qui est engagée dans cette phase finale, pour faire des opérations, en général de mauvais coups, entre guillemets, sans que ça suscite un intérêt médiatique, parce qu'il n'y a pas l'espace médiatique. L'espace médiatique est occupé. Donc, on peut voir que ça va agir comme une sorte de paravent médiatique qui va occulter toute une série de réalités de la vie quotidienne de beaucoup de pays. Et donc, il faudra être attentif. C'est aussi, c'est intéressant que nos lecteurs se disent de quoi on ne nous parle pas en ce moment et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, qu'est-ce qu'il nous cache finalement ce mondial. Autre chose, je disais tout à l'heure, il ne faut pas culpabiliser les personnes qui s'intéressent au mondial, d'abord parce que certains d'entre nous nous y intéressons. Pourquoi ? Parce que le football, c'est le sport politique par excellence. Il y a, bien sûr, on peut tout politiser, beaucoup de choses sont à politiser, on peut toujours faire une sorte de, comment dirais-je, de tri idéologique et voir que l'idéologie se faufile un petit peu partout, mais le football, c'est en particulier politique. Pourquoi ? Parce que, et on le voit bien avec cette phase finale de la Coupe du Monde, parce que c'est une guerre ritualisée. C'est une guerre ritualisée. Il suffit d'ailleurs d'assister à un match quelconque pour voir que ça commence par l'hymne national, que la plupart du temps, les joueurs portent les couleurs de leur drapeau national sur eux, qu'il y a souvent la présence de chefs d'État, que ça se décrit comme une guerre, avec des offensives, des attaques, des défenses, des percées, etc. Et donc, par conséquent, la métaphore générale est une métaphore, guerrière. Alors, bien sûr, chacun sait que c'est métaphorique, que c'est symbolique, que c'est pas réel, mais on a vu des pays partir en guerre sur la base d'un match de football perdu. J'étais, moi, récemment au Salvador, et tout le monde rappelle que le Salvador et le Honduras ont fait la guerre, une fois, ça s'appelle la guerre du football, et un journaliste, écrivain polonais a écrit un très beau livre là-dessus, Kapuscinski, hein, Richard Kapuscinski a écrit un livre qui s'appelle La guerre du football, où il raconte comment El Salvador et le Honduras ont fait une guerre, dont les motivations, bien sûr, étaient sociopolitiques depuis longtemps, mais, disons, le prétexte a été un match perdu qui a donné lieu à des bagarres et ces bagarres ont enclenché une véritable...
Mais c'est aussi un exutoire aussi au nationalisme, puisque vous le dites, c'est métaphorique. Donc voilà, c'est une façon justement de mettre à distance les sentiments nationaux, les crispations nationalistes.
Oui, bien sûr, on sait bien que le football, précisément, va toucher à des problèmes d'identité. Dans la mesure où l'équipe incarne la nation... Eh bien, bien sûr, que ce soit d'une façon positive, tout simplement parce que les gens sont légitimement patriotes, disons, tout simplement, ou bien, pour des raisons alors d'excès nationaliste, on va déposer sur cette équipe tous les attributs de la nation, les attributs de courage, d'audace, de valeur, de besoin de s'imposer, de vaincre, etc. Il suffit de voir ce que, historiquement, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, ont donné les matchs France-Allemagne, où il y avait, en quelque sorte, la répétition de conflits d'une autre nature. C'est la même chose pour beaucoup de pays. Il est intéressant, à cet égard, de noter que dans cette Coupe du Monde, en l'occurrence, retarde. En général, le football devance les décisions politiques. Tous ceux qui connaissaient, par exemple, la réalité du football en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie, savaient que lorsqu'une équipe croate affrontait une équipe serbe, c'était également la Croatie et la Serbie qui s'affrontaient dans une certaine mesure. Il y a eu beaucoup de matchs historiques, etc. Cette fois-ci, dans cette phase finale de la Coupe du Monde, il y a la Serbie-Monténégro, et cependant, le Monténégro est déjà indépendant. Alors que, même s'il n'y a qu'un seul joueur originaire du Monténégro dans cette équipe, alors qu'on peut déjà imaginer que cette équipe est obsolète par rapport à l'avancée politique. Donc les questions d'identité passent, et bien entendu, par l'exacerbation nationaliste, mais pas seulement.
parce que d'autres personnes peuvent trouver qu'effectivement...
On voit aussi des réconciliations symboliques, par exemple, avec la Côte d'Ivoire qui est divisée. Là, l'équipe de Côte d'Ivoire est composée des deux éléments antagonistes.
Antagonistes, et ça s'est vu notamment à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui s'est jouée cette année en Égypte, où la Côte d'Ivoire, donc dans un pays divisé, dans un pays en guerre civile, a cependant mieux joué qu'aucune autre équipe d'Afrique noire, puisqu'elle est arrivée en finale contre l'Égypte. Elle a perdu la finale, mais c'est l'équipe qui a le mieux représenté, en quelque sorte, l'Afrique noire, malgré ses divisions. Et effectivement, le football rassemble, et je suis sûr que les sociologues du football nous diraient que à l'occasion des matchs de la Côte d'Ivoire, aussi bien pendant la CAN qu'actuellement, pendant cette phase finale de la Coupe du Monde, tous les Ivoiriens sont unis, quels que soient leurs différents politiques, sont unis autour de leur équipe nationale. Et ce qui montre bien que le football, précisément je le disais à l'instant, c'est à la fois politique, mais pas seulement politique au sens géopolitique. C'est aussi politique parce que c'est par définition le sport prolétarien. Tout le monde le sait. Et le sport prolétarien, parce que c'est aussi la métaphore de ce qu'est et ce qu'a été la vie des prolétaires, c'est-à-dire c'est un sport où tous perdent. Il n'y en a qu'un qui gagne. Et que, disons, le quotidien d'un supporter de football, c'est la souffrance, c'est la perte, c'est la difficulté, parce que, précisément, il est beaucoup plus fréquent de perdre que de l'emporter. Et il y a là, en quelque sorte, une autre métaphore, la métaphore de la condition humaine, la métaphore de la condition des humbles, en quelque sorte, dans la société. Et à cet égard, le football, avec en particulier ses injustices, hein, le fait que l'arbitre ne voit pas toujours que notre équipe s'est mieux comportée et que ce sont les autres qui ont été, en quelque sorte, qui ont triché, eh bien, ces injustices ajoutent à l'idée qu'effectivement, eh bien, ceux qui supportent, eux aussi, sont des perdants, mais parce que, tout simplement, ils n'ont pas eu de chance, et parce que la vie est faite, comme ça, de ceux qui ont des chances, ce sont les riches, ce sont les patrons, etc., et ceux qui n'ont pas de chance, mais qui, en revanche, s'assemblent, se rassemblent, sont ensemble, en quelque sorte. Et je cite dans l'article le très célèbre chant du Liverpool, qui est très connu, « You'll never walk alone », c'est-à-dire « Tu ne marcheras plus jamais seul ». À partir du moment où tu soutiens l'équipe des prolétaires, eh bien, tu auras toujours des amis, tu seras toujours entouré, parce que c'est ça qui est important, finalement, et ce qui se joue pour beaucoup dans cet attachement au football, c'est le fait de se sociabiliser, de se rassembler autour d'une équipe qui, dans une certaine mesure, est le reflet de la société qu'elle représente.
Ça ne dit pas le pronostic du monde diplomatique.
Notre pronostic, c'est que une seule équipe l'emportera et que tous les autres perdront.
Serge Halimi.
Il faut peut-être préciser que dans le même numéro, il y a une enquête sur les centres de formation de football qui montre comment on laisse miroiter au regard de quelques-uns le sort de Zidane, de Maradona ou de Pelé, alors que pour des milliers de gens, évidemment, le destin, c'est une vie brisée qui est entièrement investie dans cette perspective de devenir un champion, perspective qui naturellement n'est réservée qu'à une poignée d'individus. Et je pense que c'est une enquête faite par un journaliste sportif qui connaît très bien le sujet, Johan Arsquet, qui est tout à fait éclairante.
Bien sûr.
Oui, je voudrais ajouter simplement un mot à propos de ce que dit Serge. C'est que le football, aujourd'hui, c'est aussi, en quelque sorte, le miroir de la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi ? Les richesses sont au sud, les consommateurs sont au nord. Les richesses au football, aujourd'hui, chacun le sait, sont au sud, en Amérique latine ou en Afrique. Les consommateurs sont au nord. Et cette espèce, justement, de tension entre le sud et le nord provoque des tragédies comme celle que raconte cette enquête sur les jeunes joueurs africains qui sont attirés dans les écoles d'entraînement en Europe et dont seulement à peine, disons, 2-3% d'entre eux réussissent à conduire une vie professionnelle à peu près décente.
Coupe du monde de football. du monde de football.
On continue avec ce numéro du mois de juin du Monde Diplomatique et on va parler de tout à fait autre chose. Alors là, Dominique Vidal, de la politique de la France envers le Proche-Orient et même le Moyen-Orient. C'est un grand article d'Alain Grèche, La voix brouillée de la France.
Oui, je crois que c'est un article important parce qu'il porte sur un sujet qui fait question depuis plusieurs mois. On s'interroge et c'est vrai, Alain part du contraste entre 2003 avec une France qui était le champion du camp de la paix, s'opposant à la guerre américaine en Irak, et aujourd'hui, 2006, un peu l'impression d'une France rentrée dans le rang, quoi. Pour symboliser, je dirais, c'est moi qui le dis, c'est pas Alain, c'est un peu de Villepin qui ferraillait avec Colin Powell et que le monde entier écoutait. Et puis de Villepin qui aujourd'hui se contente de ferroyer avec Nicolas Sarkozy. On n'est plus tout à fait dans le même type de situation. Alors l'article part d'abord d'une analyse des différents terrains où cette évolution politique s'est manifestée, pour ensuite réfléchir sur les raisons qui peuvent l'expliquer. Les terrains, ils sont connus, c'est l'Irak, où la France a fini par accepter la logique américaine, alors même d'ailleurs que les électeurs américains, eux, ne l'acceptent plus dans leur grande majorité. C'est l'Iran, où la France, qui avait joué pendant une période les médiateurs, se trouve aujourd'hui à la pointe, même, je dirais, de manière plus pointue que les États-Unis qui essayent, eux, d'entrouvrir les portes d'une négociation avec l'Iran. On a évidemment le Liban, et la Syrie, où la France a pris les devants, puisque c'est elle qui a pris l'initiative de cette résolution 1590, à partir de laquelle il y a eu, bien sûr, la reconnaissance du droit du Liban à une souveraineté, au retrait de la Syrie, ce qui était tout à fait légitime, mais en même temps un instrument de pression considérable utilisé par Washington sur le régime de Damas. Et enfin, je dirais surtout, sur le terrain du conflit israélo-palestinien, où on a eu à la fois un silence français de plus en plus pesant sur la répression dans les territoires occupés, une caution apportée à la nouvelle politique d'Ariel Sharon et maintenant d'Ehud Olmert, cette politique unilatérale, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, et je dirais de manière criante alors, la participation au vote de l'Union européenne, décidant de suspendre l'aide aux Palestiniens. Le ministre français des Affaires étrangères a voté cette suspension à Bruxelles, et quelques jours plus tard, le président de la République l'a dénoncé au Caire. Donc on est quand même.
Alors pourquoi ce revirement alors ?
Voilà. Alors la question, elle est autour d'une tentative d'explication que Alain Grèche développe. Je crois qu'il met en avant à juste titre l'idée qu'il y a aujourd'hui une convergence de vues fondamentale dans la lutte antiterroriste. Les Américains parlent de guerre, la France ne parle pas de guerre, mais on est quand même sur la même longueur d'onde et ça modifie toutes les priorités politiques. Deuxièmement, les grandes entreprises françaises ont subi le coup économique de l'affrontement franco-américain de la période de la guerre d'Irak et ne veulent plus payer ce coût et donc ont insisté auprès du pouvoir politique français pour modifier une politique qui était coûteuse, pas seulement aux États-Unis, aussi au Proche-Orient. On voit que la France perd des contrats suite aux positions qui ont été les siennes dans la période de la guerre d'Irak. Je crois qu'il y a aussi, même si ce n'est pas l'élément déterminant, l'efficacité des pressions pro-israéliennes, d'Israël, bien sûr, mais aussi de ses relais, qui exercent un chantage permanent et qui, en période électorale, a évidemment des résultats. Et puis, l'article signale, et je crois que c'est juste, qu'on a aussi une crise de l'État en France. L'affaire Clearstream, au-delà des péripéties, il a bien montré, et que cette crise, elle affaiblit la capacité à mener une politique étrangère indépendante, forte et cohérente. Alors, toute la question, et l'article le montre, je crois, c'est que le tournant va bien au-delà du Proche-Orient. C'est un tournant des relations entre la France et les États-Unis, et donc de la place de la France, de sa politique, dans l'ensemble des relations internationales. Et donc, il risque d'y avoir, à partir, je dirais, d'une rupture avec ce qui a été l'apport essentiel du général de Gaulle et de sa politique, pas seulement proche-orientale, aussi dans les rapports avec les États-Unis, à partir de cette rupture, ce tournant va avoir des conséquences sur le rôle de la France dans le monde, c'est évidemment une préoccupation, mais aussi sur le danger de ce que nous appelons le choc des civilisations et le fait qu'il n'y ait plus une politique française forte, indépendante, cohérente, c'est évidemment un facteur d'accélération de cette espèce de manière dont on est en train de faire rentrer le monde dans ce carcan avec tous les risques, on le voit bien, qu'il comporte.
Alors vous vouliez parler aussi du Proche-Orient.
C'est-à-dire, je pense qu'on a une illustration, malheureusement, ce week-end, de la difficulté d'exprimer une voix claire de la France, puisque Philippe d'Oust-Blazy a jugé simplement nécessaire de regretter le caractère disproportionné de l'action militaire israélienne. La disproportion dont il parle, c'est l'assassinat pur et simple d'au moins une dizaine de Palestiniens sur la plage de Gaza. C'est le vendredi soir, c'est le jour de repos. En Palestine, comme dans beaucoup de pays musulmans, les gens viennent pique-niquer sur la plage et on tire dessus, semble-t-il, depuis un bateau. Alors, il semble qu'il s'agisse, selon les dirigeants israéliens, d'une erreur. Une enquête est en cours, on verra ce qu'elle donnera. La thèse de la bavure est quand même une thèse un peu difficile à soutenir si, effectivement, les tirs ont été effectués depuis un bateau face à la plage. On ne sache pas que les terroristes palestiniens s'entraînent sur la plage où se trouvent ces familles. Et donc, il y a toute une série de questions qui sont posées, puisqu'on voit bien qu'il y a une volonté d'Ehud Olmert de faire passer à tout prix sa politique unilatérale, c'est-à-dire concrètement le fait de fixer les frontières d'Israël seul, sans les négocier ni avec les Palestiniens, ni avec les communautés internationales. Et ce sont des frontières qui sont des frontières d'annexion de Jérusalem-Est, des blocs de colonies, de la vallée du Jourdain. Bref, il reste la moitié de la Cisjordanie enfermée dans le mur et la bande de Gaza pour un éventuel État palestinien. C'est évidemment inacceptable. En même temps, Olmert a une difficulté, c'est qu'il a eu le feu vert américain quand il a rendu visite à George Bush, mais sous la condition qu'il fasse mine de continuer à vouloir négocier. Or, voilà que le président Mahmoud Abbas a pris une initiative extrêmement intéressante, qui est de dire, puisqu'il y a des débats, que le peuple palestinien tranche, qu'un référendum décide si oui ou non nous allons, nous les Palestiniens, négocier avec les Israéliens, si nous allons les reconnaître et si nous allons mettre fin à toute forme d'action armée ou terroriste. Évidemment, un référendum comme celui-là, s'il avait lieu et s'il donnait des résultats positifs que les sondages, mais on reparlera des sondages tout à l'heure, laissent augurer, disons, un tel référendum mettrait tout le monde au pied du mur.
Dans quel sens les augures ?
Ah ben les augures, c'est que 70 à 80% des Palestiniens, selon les sondages, sont pour la tenue de ces référendums et s'apprêtent à y voter de manière positive.
Mais c'est quoi positif ? Ce serait quoi positif ?
Ça veut dire, nous voulons négocier avec Israël, nous voulons reconnaître l'État d'Israël tel qu'il est, s'il nous permet d'avoir notre État palestinien indépendant sur les territoires occupés par Israël en 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, qu'une solution du problème des réfugiés, etc. Alors évidemment, si ce référendum a lieu et s'il donne ses résultats, c'est une situation qui met tout le monde au pied du mur. C'est-à-dire le Hamas est au pied du mur, le nouveau gouvernement doit dire si oui ou non il accepte le verdict populaire, mais Israël et la communauté internationale aussi seraient au pied du mur, parce qu'on ne pourrait plus dire il n'y a pas de partenaire. Le peuple palestinien lui-même, en votant, se serait érigé comme partenaire, pas seulement ses dirigeants, lui-même. Donc il y aurait là une situation extrêmement embarrassante pour ceux qui ne veulent pas de cette négociation. C'est pourquoi je trouve tout à fait regrettable qu'on se soit contenté de trouver disproportionné l'assassinat d'une dizaine de Palestiniens sur la plage de Gaza vendredi. Il aurait fallu non seulement la condamner comme un crime de guerre, l'enquête nous montrera qui a pris la responsabilité de ce crime de guerre, mais en plus, c'était l'occasion d'apporter un appui fort à cette initiative de référendum qui est effectivement une manière démocratique, je trouve intelligente, de sortir de cette nasse dans laquelle on peut aller vers une nouvelle intifada et une escalade absolument dramatique.
Alors, on continue avec le numéro de juin, toujours du Monde diplomatique, avec un long papier, non pas très long d'ailleurs, hein, sur l'Afrique, une double page, sur l'Afrique, où on nous dit en gros que la France-Afrique, c'est un peu fini, quoique c'est pas tout à fait fini. Alors, c'est fini ou c'est pas fini, Anne-Cécile ?
Un peu des deux, mon général. C'est-à-dire que la France reste une grande puissance en Afrique. On voit par exemple avec le Tchad, où c'est un pays qui est pratiquement sous tutelle militaire de la France. Cela dit, le système France-Africain qu'on a pu connaître dans le passé, c'est un système qui a du plomb dans l'aile. Et on peut dire que, quelque part, la France n'est plus dans le coup en Afrique. On aurait bien aimé que la fin du système France-Africain se soit faite pour des raisons morales, c'est-à-dire qu'on se rende compte, après l'affaire Elf, après l'implication de la France au Rwanda, qu'il fallait changer de pratique. Malheureusement, ce ne sont pas des raisons morales qui nous poussent à changer, c'est la pression des événements eux-mêmes qui remettent en cause la présence de la France en Afrique, son hégémonie politique, mais aussi économique. Et là, on publie une enquête qui aborde cette question du point de vue des Africains eux-mêmes. Et on s'aperçoit que les Africains sont en train de se désintéresser de la France pour différentes raisons. D'une part parce que la France, depuis des années, tient une sorte de double langage. C'est-à-dire, depuis la colonisation, la France parle des droits de l'homme, du bien-être des peuples africains, et puis en gros, ça fait 150 ans qu'ils attendent, ils voient rien venir. Donc au bout d'un moment, ils font leur compte, et ils se disent, il serait temps quand même que la France mette en application ses beaux discours, qu'elle arrête de soutenir des dictateurs, qu'elle mette son argent au service du développement et pas des intérêts de ses grandes entreprises uniquement. Donc il y a cet aspect-là, quoi, de double langage qui commence à fatiguer, et puis cette fatigue intervient au moment où d'autres puissances arrivent sur le continent africain. Les Chinois, avec leurs entreprises, qui proposent des marchés, qui construisent des immeubles, qui arrivent avec des produits pas chers. Une des choses qui est frappante quand on va en Afrique, même en Afrique francophone, c'est les motos chinoises, qui sont pas chères, et les gens se déplacent avec ça. Alors qu'avant c'était à pied ou en bicyclette, etc. Vous avez une moto chinoise, les gens sont très contents, et ça participe de l'attrait de la Chine aux yeux des Africains. Les Américains, eux, ils sont un petit peu sur tous les terrains du commerce, le commerce bête et méchant, quoi, le libre-échange, mais en même temps ils sont aussi présents militairement, de plus en plus, y compris en Afrique francophone. Au Sénégal, au Mali, les pays africains qui se lassent donc de cette espèce de paternalisme français sont contents finalement de trouver l'interlocuteur américain.
C'est un changement de maître.
Voilà, exactement. Au lieu de
mais ça favorise pas une émancipation africaine.
Alors c'est toute la question. Est-ce que cette redistribution des cartes va profiter à une émancipation de l'Afrique ? Et ce que montre l'enquête qu'on publie ce mois-ci, c'est qu'il y a un changement dans les mentalités des leaders africains, qui, notamment au travers de l'Union africaine, essaient de s'affirmer, de passer eux-mêmes des alliances, essayer de mieux choisir, de remettre en cause des contrats en fonction de priorités qui seraient des priorités proprement africaines. Cela dit, les choses ne sont pas simples dans la mesure où le rapport de domination économique nord-sud reste toujours aussi violent. Et donc quand vous voulez vous émanciper, mais que vous êtes quand même étranglé par la dette, que vous avez toujours besoin du soutien de puissances du Nord pour votre développement ou pour résoudre un certain nombre de problèmes de sécurité, vous n'êtes pas forcément en mesure de vous affirmer. Cela dit, on voit naître une génération de leaders africains plus intransigeants, qui font jouer la concurrence. La question, c'est est-ce que ça va faire naître une mentalité africaine ? Parce que pour l'instant, malheureusement, ces leaders africains qui sont plus fiers, dont la plupart n'ont pas connu la colonisation d'ailleurs, c'est des gens qui ont 40 ans, en même temps, ce n'est pas des gens qui vont remettre en cause forcément le système économique mondial. La question de l'altermondialisme africain, enfin de son expression politique, reste encore très...
embryonnaire.
Voilà, tout à fait. Mais c'est aussi parce que en Afrique, les élites sont peut-être encore moins représentatives que chez nous. Et donc les gens qui arrivent au pouvoir en Afrique sont des gens qui ont souvent dû négocier leur accession au pouvoir avec le FMI ou la Banque mondiale. Donc c'est des gens qui sont choisis par l'extérieur, par les grandes puissances, notamment par les institutions financières internationales, et pas forcément l'expression du suffrage universel. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est cet entre-deux que décrit l'enquête, et dans lequel on voit, d'ailleurs, puisque c'est dans l'actualité, c'est intéressant de le souligner, les dégâts que font les déclarations de M. Sarkozy sur l'immigration.
Mais il a dit, la France n'a pas besoin de l'Afrique.
La France n'a pas besoin de l'Afrique, mais alors un jour...
À Bamako.
Oui, il est allé proclamer ça là-bas, et d'ailleurs il a été conspué par beaucoup d'associations. Mais la politique de Sarkozy, parce que c'est toujours très facile de taper sur Nicolas Sarkozy, il faut voir qu'elle s'inscrit malheureusement dans la longue durée. Ça fait 20 ans que la France a une politique restrictive en matière de visa, gouvernement de gauche et de droite confondus, et que par exemple les étudiants trouvent plus facilement des places dans les universités du Canada ou des États-Unis ou de Londres qu'en France. Donc quand M. Sarkozy dit « la France n'a pas besoin de l'Afrique », on n'est pas sûr que ce soit une vision de long terme pour quelqu'un qui prétend exercer les plus hautes fonctions, parce que il y a quand même des cerveaux en Afrique, il y a de la matière grise, c'est un continent riche, pas seulement économiquement, riche humainement, avec lequel la France a une très longue histoire, et je suis pas persuadé qu'il soit très intelligent pour les dirigeants français de se couper comme ça de toute une génération aussi brutalement comme ça, avec des formes de mépris peu intelligentes.
On continue avec le diplôme de ce mois de juin avec Bernard Cassen. Bernard Cassen a voyagé, il est allé à Vienne pour se réjouir de l'évolution de l'Amérique latine.
Oui, je m'en suis réjoui à Vienne lors du sommet entre l'Union européenne et l'Amérique latine qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui se sont réjouis par ailleurs, et surtout en Amérique latine. Vous savez, c'est une année un peu spéciale. Il y a beaucoup d'élections. Il y a eu cette élection choc d'Evo Morales en Bolivie, dont Maurice Lemoine, qui est quelque part dans ces contrées en ce moment, vous a bien raconté. Donc la question qui se pose et que la presse pose souvent, c'est de dire il y a la guerre entre deux Amériques latines. Il y a d'un côté Michel Bachelet, président du Chili, il y a Lula, président du Brésil, donc des Tabaré Vázquez, président du Uruguay, donc des gens réputés, modérés, et de l'autre, il y a une aile extrémiste un peu folle avec Evo Morales en Bolivie, Hugo Chavez au Venezuela et Fidel Castro à Cuba. Voilà. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Certes, ces gouvernements peuvent avoir des divergences, des différends. C'est le cas entre la Bolivie et le Brésil pour la nationalisation du gaz bolivien, et notamment de la compagnie brésilienne d'État Petrobras. Mais ça se passe quand même très bien entre les dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Ils ont besoin de faire bloc face aux États-Unis. Et ça arrange tout le monde, finalement, que le Brésil, qui est quand même le géant du sous-continent, se pose un interlocuteur des États-Unis en ayant, je dirais, en gros, une droite et une gauche pour mieux affirmer son autonomie. Et il y a une solidarité, je crois, qui ça joue beaucoup en Amérique latine, personnelle. Ce sont des gens qui se voient tout le temps, qui se parlent au téléphone tout le temps. Et je raconte une anecdote. Lors de la cérémonie, de la rencontre de clôture du contre-sommet, parce que quand il y a un sommet, il y a toujours un contre-sommet, Chavez était à la tribune, et à un moment donné, il se lève, on l'appelle dans les coulisses, il revient, il dit, bon, c'est Lula qui m'a appelé au téléphone, et il dit à la cantonade, Lula est un bon camarade, et Chavez se tourne vers le porte-parole du mouvement des Sans-Terre, Jean-Pedro Stedile, que nous connaissons bien ici au Diplo, il était un de nos invités pour le 50e anniversaire du journal, et dit, toi Jean-Pedro, tu vas voter Lula, hein ? Jean-Pedro dit, oui, bien sûr. Bon, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et en même temps, ce contre-sommet de Vienne a permis de montrer, de mettre en évidence qu'il y a d'autres formules que le libre-échange, tel qu'il est imposé par les canons de l'Organisation mondiale du commerce, tel qu'il est poussé à fond par l'Union européenne, plus encore d'ailleurs que par les États-Unis. C'est-à-dire, l'idée, c'est de mettre le politique au poste de commandement. Les échanges commerciaux, c'est parfait, c'est très bien, c'est nécessaire, mais pourquoi faire ? Il n'y a pas une finalité du commerce en elle-même. Pour eux, pour les dirigeants cubains, vénézuéliens et boliviens, le commerce, ça doit servir à quelque chose. Ça doit servir à créer de l'emploi, à préserver l'environnement, à accroître la souveraineté, la sécurité alimentaire, etc. Et c'est pourquoi les trois en question, Fidel Castro, Evo Morales et Hugo Chavez, ont signé, à la fin du mois d'avril, une sorte de nouveau traité qui s'appelle le traité de commerce entre les peuples, qui est basé, je dirais, sur des échanges entre les pays, mais qui n'empruntent pas un circuit monétaire. Par exemple, le Venezuela livre du pétrole ou de l'essence, du pétrole d'ailleurs, à l'Argentine. L'Argentine livre des vaches laitières au Venezuela. Vous voyez, ou alors, les Cubains fournissent des médecins, des éducateurs sportifs, des entraîneurs sportifs au Venezuela. Le Venezuela fournit du pétrole à Cuba. Tout ça ne transite pas par les circuits bancaires, etc. Alors, il y a une large partie de troc, pas exclusivement. Donc, ce type d'échange est un pied de nez formidable au canon du libre-échange, où on considère que c'est la loi du commerce qui doit prévaloir sur toutes les autres, peu importe les considérations sociales, fiscales, environnementales. Il y a un droit souverain au commerce, indépendant de tout. Donc, ce contre-sommet de Vienne a permis de mettre en évidence cet autre modèle possible de relation entre les États pour ce qui est du commerce international.
Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo.
On continue et on finit avec Serge Halimi, et c'est d'ailleurs la dernière page du diplôme de ce mois de juin, sur les sondages. Alors, Serge Halimi s'intéresse aux sondages, et ça va peut-être étonner les auditeurs, il est critique. Serge Halimi est critique envers les sondages. On a déjà la chute de l'intervention de Serge Halimi. La chute, ça va être, soyez vigilants, mais entre sa prudence envers les sondages et la chute de l'exposé, il y a quand même deux, trois mots à dire.
Il y a d'abord une précision importante, c'est qu'il s'agit d'un article dont je ne suis pas le signataire, mais d'Alain Garrigou, qui est sans doute avec Patrick Champagne l'un des meilleurs spécialistes en France de cette question des champagnes, des sondages, et qui, comme c'est un analyste critique de cette réalité, est beaucoup moins présent à l'antenne pour commenter l'inflation de sondages dans la vie politique que les sondeurs eux-mêmes, qui sont en général les premiers sollicités lorsqu'il s'agit de commenter les enquêtes d'opinion. Donc, Alain Garrigou s'intéresse à la subordination de la vie politique française à ce qu'il appelle l'infernal manège des sondages. Je crois qu'aucun pays ne produit autant de sondages politiques que la France, pas même les États-Unis. Et pourtant, les sondages politiques, rappelle Garrigou, ne représentent que 5 à 10% du chiffre d'affaires des instituts de sondage. Alors pourquoi en parle-t-on autant ? Parce que précisément, ils assoient l'image de marque des instituts de sondage et des journaux qui les publient. Ils leur font une publicité gratuite. Comment ? Ben, vos auditeurs le savent bien. À chaque fois qu'on annonce un sondage, on dit le sondage BVA, le sondage Sofres, etc. Publicité gratuite pour BVA et pour Sofres. Publicité gratuite pour le journal qui publie le sondage. Il suffit de publier un sondage pour que vous ayez, en quelque sorte, un clip dans toutes les radios et dans toutes les télévisions. Et cette publicité gratuite permet ensuite aux instituts de sondage de s'adresser à monsieur ou à madame tout le monde en leur demandant quelle marque de lessive préférez-vous, la marque A ou la marque B. Et les gens répondent en se disant « c'est la Sofres, c'est BVA, c'est Ipsos qui m'appelle, ce sont des instituts sérieux puisqu'on en parle dans les journaux et dans les bulletins d'information ».
Serge, mais ce que tu dis me pousse à me poser une question. Est-ce que le monde diplomatique, qui est souvent ignoré dans les revues de presse, n'aurait pas intérêt à publier également des sondages ?
L'une des explications peut-être de cette ignorance par les revues de presse, c'est que le monde diplomatique a effectivement comme politique ancienne de ne pas publier les sondages, de ne pas publier de sondages, et de fait le monde diplomatique est l'une des très rares publications avec le Canard enchaîné qui fait systématiquement ou très souvent l'analyse critique des sondages. Alain Garrigou rappelle d'ailleurs dans son article qu'à la télévision il n'y a pas eu d'émission critique sur les sondages depuis des années. Il y a eu des projets à Arte d'analyse ou de soirées thématiques sur les sondages qui seraient un peu critiques et que ces soirées n'ont jamais vu le jour. En d'autres termes, on a des commentateurs permanents et pas très intéressants de la vie politique qui sont souvent les sondeurs eux-mêmes, qui relaient leurs études, qui se font de la promotion. Des gens comme Jérôme Jaffré, Stéphane Rosès, etc., qu'on a l'impression d'entendre en permanence, de lire en permanence, et qui contribue à la personnalisation de la vie politique. Puisque le sondage politique, c'est essentiellement X contre Y, en ce moment, Sarkozy contre Ségolène Royal. Et il y a un problème de fond qui tient au fait que ces chiffres, qui sont assez largement dépourvus de signification, surtout un an avant le scrutin, avec les expériences qu'on a eues, on aurait dû en retenir quelques leçons, ces chiffres ont néanmoins une importance ou un impact sur la réalité politique. Et Alain Garrigou rappelle qu'après la publication d'un énième sondage indiquant que Ségolène Royal était en tête des intentions de vote des sympathisants socialistes, un certain nombre de notables socialistes se sont ralliés à Ségolène Royal. Qu'en d'autres termes, pour le citer, une pseudo-information, le sondage, en provoquait une véritable. Et alors, puisqu'on parle des sondages, il y a une dimension qui me paraît intéressante, c'est aussi de voir la question des réponses des sondés qui ne sont soit pas publiées, quand elles n'intéressent pas le journal qui a posé la question, qu'elles ne correspondent pas au type de réponse qu'il attendait, ou bien très peu relayées par la presse. Et par exemple, récemment, il y a eu un sondage insistant sur les questions de l'insécurité, comme on dit, et qui était titré par Le Figaro « Pour 56% des Français, Sarkozy fait les bons choix ». Alors dans ce sondage, il y avait un certain nombre d'informations qui, elles, n'ont pas été relayées et qui relativisaient beaucoup les bons choix de Sarkozy. Ainsi, par exemple, 81% des Français, dont 71% des sympathisants de droite, estiment, je cite, « l'insécurité en France est avant tout due à la dégradation des conditions de vie et à l'augmentation de la pauvreté ».
C'était dans le même sondage. C'était publié, mais ce n'était pas titré, ce n'était pas souligné,
ça n'a pas été relayé par la plupart des médias. C'est donc les Français qui étaient convaincus par les excuses sociologiques, pour reprendre la formule malencontreuse.
Il faudrait faire un travail, je suppose que vous l'avez déjà fait, mais sur la titraille.
Oui, bien sûr.
Étant donné qu'on feuillette très souvent la presse, c'est pas si souvent que ça qu'on rentre vraiment dans un article et dans un papier. Donc la titraille, ce qu'on appelle la titraille, enfin les titres en disent plus long que le papier, très souvent.
Et parfois le contraire d'ailleurs.
Et souvent, sans l'accord évidemment de l'auteur du papier en plus.
Par exemple, un journal qui ferait en priorité ou presque exclusivement la critique des médias, prenons je sais pas le Plan B par exemple, aurait pu titrer sur 73% des Français, dont 69% des sympathisants de droite estiment, je cite, ce sont avant tout les médias qui créent le sentiment d'insécurité.
On a noté au passage une publicité subliminale pour le Plan B.
Il y a très peu de titres, vous voyez, les Français estiment que ce sont les médias qui créent le sentiment d'insécurité. Je continue toujours dans le sondage du Figaro, hein, dans le sondage qui a été publié par le Figaro, mais dont les résultats n'ont pas été relayés autant que le soutien apparent à Sarkozy. Pour 65% des Français, dont 54% des sympathisants de droite, il n'y a pas assez de prévention et trop de répression. La majorité des sympathisants de droite. En revanche, une minorité seulement, 31% des Français, dont 45% seulement des sympathisants de droite, estimaient « l'insécurité est avant tout due au trop grand nombre d'immigrés en France ». Alors ça, c'est pour l'insécurité. Mais il faut voir que le même type de phénomène se produit pour des questions plus générales, économiques et sociales. Ainsi, dans le sondage publié par Le Figaro, le même journal, le lendemain, on apprenait que 92% des Français, c'est-à-dire presque tous, sont favorables à la proposition « développer les services publics ». 82% sont favorables à la proposition « porter le SMIC à 1500 euros en 5 ans », dont 74% à droite. 73% sont favorables à la proposition « accroître les pénalités imposées aux communes ne respectant pas l'obligation d'avoir 20% de logements sociaux ». Et 54% sont favorables à la proposition de supprimer le contrat nouvelle embauche et 52% à la proposition renationaliser complètement EDF. Alors, je sais bien que les sondages ne veulent pas dire grand-chose et qu'ils se trompent, mais puisqu'on les relaie...
Mais cela vous plaît.
Non, mais puisqu'on les relaie, pourquoi ne pas avoir titré sur 52% des Français favorables à la renationalisation complète d'EDF, à la suppression du contrat nouvelle embauche, et estiment que l'insécurité est d'abord due à la dégradation des conditions de vie et à l'augmentation de la pauvreté. Si les journaux faisaient ce travail, au lieu de faire un travail systématiquement conservateur et néolibéral, peut-être que le climat politique serait un peu différent.
Voilà, merci à tous. Merci à Serge Halimi, Ignacio Ramonet, Dominique Vidal, Anne-Cécile Robert et Bernard Cassen. Tout ça, c'est l'équipe du Monde Diplomatique qui vous parlait du numéro de juin. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, sur le site de France Inter à franceinter.com à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Je le rappelle, à partir d'aujourd'hui même, là-bas si j'y suis est podcastable. Vous pouvez également réécouter cette émission pendant 24 heures sur France Inter, sur le site France Inter, mais surtout, vous n'allez pas réécouter par la suite cette émission sur le site pirate la-union-bas.org. C'est interdit, c'est un pirate, il y a plus de 800 émissions qui sont stockées par ce pirate, et ça c'est très très mal. À la technique aujourd'hui, Edwin Caron et Ludovic Asselot, c'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission, modeste et géniale, assistée de Pascal Le, Pascariello et de Christophe Imbert, le répondeur de la Bassigisville. Vous le saviez, c'est le 01 56 40 37 37. Encore quelque chose, c'est le jeudi 22 juin. Jeudi 22 juin que sera diffusé dans la base, j'y suis, le procès, le fameux procès, vous vous souvenez, le procès. Vous étiez nombreux à vous précipiter pour assister à ce procès au théâtre de Chasset. Eh bien, c'est le jeudi 22 que sera diffusé donc le procès en réhabilitation de BHL. Voilà, et ben réclame.